Europe 1, il est 7h.
Ça va nous permettre de remettre en service des salles de réunion sur lesquelles on avait limité l'accès.
Un bol d'air pour les entreprises paralysées par les mesures sanitaires très strictes. Selon les informations d'Europe 1, les règles vont être allégées un mètre entre chaque salarié. Allègement aussi pour les écoles et les collèges où tous les élèves doivent être de retour lundi. Et il n'y aura plus de distanciation obligatoire en maternelle. Quand Marine Le Pen tente de s'approprier l'héritage du général de Gaulle, visite mouvementée hier sur l'île de Sein.
Ils ont craché depuis toujours sur de Gaulle et maintenant ils voudraient récupérer l'héritage.
Un nouvel élément dans l'affaire de la disparition de la petite Maddy au Portugal il y a 13 ans. Les enquêteurs allemands disent avoir la preuve qu'elle a été tuée. Et puis nous prendrons la mer direction Saint-Nazaire où on construit en ce moment le premier parc d'éoliennes en mer.
On pourra l'apercevoir, mais uniquement les jours de très beau temps, de la plage de la Boule. Mais les éoliennes auront la taille d'une tête d'épingle pour les riverains.
Juste après ce journal, des médicaments utilisés pour traiter la ménopause et l'endométriose qui provoqueraient un surrisque de tumeur. Votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation écolo d'Anissa Mbida, l'innovation en Formule 1 qui se retrouve ensuite dans votre voiture. Avant l'édito sport de Virginie Fulpin, 7h20, la Ligue des Champions qui se terminera bien et ce sera fin août, mini tournoi à Lisbonne. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Il faudra travailler plus, disait Emmanuel Macron dimanche dernier. Oui, mais comment? Les chefs d'entreprise réclamaient un allègement des règles sanitaires. Ils vont être entendus, selon vos informations, Carole Ferry. La règle des 4 mètres carrés par salarié va sauter dans les jours qui viennent.
La nouvelle règle qui se profile, c'est 1 mètre de distance entre chaque salarié. Elle doit encore être validée par les autorités sanitaires. Il n'y aura désormais plus qu'un seul protocole. Il remplacera les 80 guides et fiches métiers établis en plein confinement. Des protocoles très stricts qui pèsent en moyenne à 20% sur la productivité des entreprises. Certains patrons m'ont d'ailleurs avoué que tout n'était plus vraiment respecté à la lettre. Pour les plus rigoureux, cela va permettre de faire revenir plus de salariés dans l'entreprise ou de retrouver une certaine normalité, selon Alain Dulac. Il dirige la société Factem, spécialisée dans l'électroacoustique en Normandie.
Ça va nous permettre de remettre en service des salles de réunion sur lesquelles on avait limité l'accès. On avait imposé des sens de circulation qui étaient très stricts. Et là, on va pouvoir relâcher. Le nettoyage des outils, on avait des nettoyages 2 fois par jour. On va alléger cette mesure. Également la mise à disposition de nouveau de fontaines à eau, distributeurs de café, choses comme ça.
Beaucoup prévoient toutefois de garder quelques nouvelles habitudes. La distribution de gel hydroalcoolique par exemple, les horaires décalés, les roulements plus nombreux à la cantine ou encore le port du masque quand on doit travailler de manière rapprochée.
Les informations de Carole Ferry.
Tous les enfants à l'école lundi. Pour les établissements scolaires, le protocole sanitaire a été dévoilé hier soir. Fini les règles de distanciation en maternelle.
Règles qui sont également plus souples en élémentaire et au collège pour les 2 semaines de cours avant les vacances. Précision de Victor Dolande.
Les études épidémiologiques sur la contamination des enfants sont très rassurantes. Le ministère de l'Éducation nationale a donc tranché, fini la distanciation sociale entre les enfants en maternelle. Une très bonne nouvelle pour Aurélia, dont la fille est en grande section.
Cette reprise de l'école à 100% est vraiment une super nouvelle. Je l'attendais avec impatience. Et puis ma fille dire au revoir à sa maîtresse normalement et finir une année sereine.
À l'école élémentaire, la règle reste le mètre de distance latérale entre les élèves. Mais si ce n'est pas tenable, les écoles devront s'adapter. Autrement dit, le gouvernement assume cette absence de distance. Marie va remettre ses 2 enfants en classe dès lundi. Même pour 2 semaines, dit-elle, c'est essentiel.
Symboliquement, oui, qu'ils terminent l'année dans leur école, ça me paraissait vraiment important. De se dire que tout ça était temporaire, que la norme, ce n'est pas de se tenir à distance les uns des autres. C'est important maintenant de reprendre une vie normale, entre guillemets.
Quant au collège, si la distance d'un mètre n'est pas possible, alors le port du masque sera obligatoire pour tous les collégiens.
Marine Le Pen se savait attendue. Elle a donc décidé de surprendre ses détracteurs en se rendant dès hier sur l'île de Sein pour commémorer l'appel du 18 juin.
Autant dire que la présidente du Rassemblement national n'a pas eu droit au tapis rouge sur cette île, symbole de la résistance. Malgré l'effet de surprise, un comité d'accueil pas franchement amical l'attendait. Résultat, un aller-retour de 2 heures sous les huées, comme nous le raconte François Coulon.
Elle redoutait d'être bloquée ce matin au port d'Audierne par des opposants, alors Marine Le Pen a devancé l'appel et débarqué sur l'île dès hier en canot pneumatique et en catimini. Bref discours devant la croix de Lorraine avant de repartir sous les huées.
C'est une honte, Madame Le Pen.
La honte, la honte.
C'est la provocation à l'état pur.
Des habitants de l'île de Sein piétinent la gerbe de fleurs déposée par la présidente du Rassemblement national. 20h30, conférence de presse sur le continent.
Lorsque l'on est contraint de changer ses plans au dernier moment parce qu'on est confronté à des actes de violence, il en est de la responsabilité de ces milices d'extrême gauche qui maintenant, de manière systématique, empêche la démocratie de fonctionner.
Dehors, les frondeurs ne désarment pas.
Les fachos dehors ! Les fachos dehors !
Qu'ils ont craché depuis toujours sur De Gaulle et maintenant ils voudraient récupérer l'héritage.
Ce qu'on devrait célébrer aujourd'hui, c'est la mémoire des résistants. Des gens comme elle, ils les ont assassinés, les résistants, pendant la guerre.
Marine Le Pen aura loupé son coup de com'. Audierne, François Coulon, Europe 1.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron va commémorer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin avec d'abord une visite au musée de la Libération aux Invalides, puis au mémorial du Mont-Valérien. Cet après-midi, il s'envolera pour Londres.
Le chef de l'État qui, lors de sa dernière allocution, donnait les grands axes de sa politique post-crise. Ce matin, Mickaël Darmon, vous nous révélez concrètement comment Emmanuel Macron compte mettre en œuvre cette fameuse réinvention.
Eh bien, tout d'abord, en étant affranchi des contraintes budgétaires, hein, c'est-à-dire que l'État dispose de capacités financières presque illimitées. Donc, la question de l'argent ne se pose pas. C'est pour cela que le président veut se concentrer sur le Ségur de la santé, cette fameuse réforme de l'hôpital qu'il ne veut rater à aucun prix. Et comme on dit dans les couloirs de l'Élysée, avant, on réformait le pays sans payer. Maintenant, on va pouvoir donc réformer en payant. Et pour cela, donc Emmanuel Macron, ça va être le changement. Autre champ de réinvention, le dossier des retraites. Il n'est pas passé à la trappe et il sera rouvert d'ailleurs avant la fin du quinquennat, mais sans l'âge pivot qui avait fait tant polémique. Le maître mot, les deux maîtres mots d'ailleurs, seront justice sociale. Selon les informations, Emmanuel Macron s'exprimera avant le 14 juillet, peut-être sous la forme d'une interview. On voit bien qu'en fait, en ce moment, il consulte également et il réfléchit pour la formation d'un gouvernement sur lequel il ne veut pas s'étendre. Mais il rappelle qu'il y aura donc des décisions qu'un président de la République doit prendre. Bref, il veut reprendre la maîtrise d'un quinquennat et arrêter de courir après un agenda qui s'impose sans cesse à lui.
Votre fait politique, Mickaël Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Europe 1. On approche peut-être de l'épilogue dans la sordide affaire de la disparition de la petite Maddy il y a 13 ans au Portugal. Les détails dans la suite du journal de 7h.
Europe 1, il est 7h09, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
C'est une énigme criminelle qui est peut-être en train de se résoudre en Allemagne, la disparition de la petite Maddy McCann en 2007. Elle était alors en vacances au Portugal avec ses parents.
Les enquêteurs allemands ont trouvé un suspect, déjà en prison pour des affaires de pédophilie. Ils affirment désormais avoir la preuve que la fillette a été tuée. À Berlin, Hélène Kohl.
Le procureur parle de preuves solides et concrètes qui corroborent les soupçons des enquêteurs. Il y a 2 semaines encore, le président de la police criminelle fédérale reconnaissait qu'il avait un faisceau d'évidence, mais qu'il lui manquait l'indice ultime pour confondre le suspect. Et c'est pour cela qu'il avait lancé un appel à témoins à la télévision. Il semble que cela a bel et bien fait avancer l'enquête. D'après plusieurs médias, certains éléments datant d'une perquisition de 2016 en Allemagne pourraient avoir livré de nouvelles informations. À l'époque, la police recherchait une autre petite fille, et dans le mobilhome du suspect, elle avait trouvé des maillots de bain d'enfant. Il y avait aussi 8000 photos et vidéos pédopornographiques sur des clés USB enterrées dans le terrain. Depuis 2 semaines, ses anciens voisins, ses anciennes petites amies parlent également des récits glaçants dans lesquels la police a peut-être identifié l'indice confondant. Dans le journal Bild, une de ses collègues raconte comme il se serait mis en colère quand elle lui avait parlé de l'affaire Maddy. « La gosse est morte », aurait-il crié. « C'est si facile de faire disparaître être un corps, les cochons mangent de la chair humaine. » Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et maintenant, cette déclaration de guerre. Les États-Unis ont annoncé aux Européens hier soir qu'ils abandonnaient toute discussion sur la taxation des géants du numérique, les GAFA. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Oui, Washington menace les Européens de sanctions. Les producteurs français de vin, entre autres, ont de quoi s'inquiéter. Le secrétaire au Trésor de Donald Trump a écrit à Bruno Le Maire et aux 3 autres ministres des Finances européens concernés, le Britannique, l'Italien et l'Espagnol, pour leur annoncer la nouvelle. Washington se retire des discussions qui étaient menées depuis plusieurs mois au niveau de l'OCDE pour aboutir à une taxe sur les services numériques qui serait appliquée dans le monde entier. La France, on s'en souvient, avait accepté de reporter sa taxe GAFA en attendant un accord accord sur cette taxe internationale.
Les États-Unis avaient accepté de discuter. Pourquoi est-ce qu'ils jettent l'éponge ?
Eh bien, le prétexte, selon la lettre du secrétaire au Trésor américain citée par le Financial Times, c'est qu'il y a en ce moment, je cite, « des questions bien plus importantes à traiter ». La vérité, c'est que Washington n'a jamais voulu de cette taxe. La conséquence, la lettre le précise noir sur blanc, c'est que si des pays adoptent de telles taxes, les États-Unis réagiront, disent-ils, par des mesures appropriées et proportionnées. En clair, si les Européens maintiennent la taxation des GAFA, nous subirons des taxes sur d'autres produits. Washington a déjà menacé la France de 2,4 milliards de droits de douane sur une foule de produits. La guerre transatlantique du commerce est relancée.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe.
En cette semaine de l'énergie durable, voilà une illustration du monde qui change. Le lancement des parcs d'éoliennes en mer.
Pour l'instant, il n'y en a pas en France, mais 4 projets sont en cours. Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire, le plus avancé. Virginie Salmen est allée faire un tour sur le chantier.
Un parc de 80 éoliennes dispersées à l'horizon, à 12 km de la côte, quasi invisible, jure François Casse des chantiers de l'Atlantique.
On pourra l'apercevoir, mais uniquement les jours de très beau temps, de la plage de la Baule. Mais les éoliennes auront la taille d'une tête d'épingle pour les riverains.
Et pourtant, ce sont des engins bien plus grands que les éoliennes terrestres. Plus de 200 mètres de haut, l'envergure de deux Airbus A380. Ça fait 10 ans que le projet a été lancé et il va falloir encore 2 ans pour planter ces éoliennes en pleine mer.
Comment ça tient une éolienne en mer ?
Frédéric Grisot, patron de la branche énergie marine.
Elle est clouée au fond de la mer. On commence par percer un trou et ensuite on vient y poser un tube d'acier de 80 mètres de long et on vient cimenter pour que ce pieu tienne au fond de la mer.
Et avec quoi on creuse des trous aussi énormes ?
Ce sont les grosses machines avec lesquelles aujourd'hui on forme les tunnels pour le métro du Grand Paris. Ce sont les mêmes machines qui font 8 mètres de diamètre mais qu'on pose verticalement au fond de l'eau.
L'essentiel des oppositions est venu des pêcheurs. EDF les a emmenés voir ce qui se fait au Royaume-Uni, au Danemark. Je ne vais pas vous dire qu'on est ravis qu'il y ait des éoliennes, me dit le patron du comité des pêches, mais on a obtenu des compensations.
Un reportage de Virginie Salmen à Saint-Nazaire.
Merci beaucoup Hélène Zellani, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
À 7h14, votre rendez-vous santé sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
On vous retrouve tous les matins après le journal de 7h et aujourd'hui Jimmy, vous allez nous parler d'une alerte de l'agence du médicament, alerte qui concerne 2 pilules hormonales qui pourraient donner des tumeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comme ça sur le papier ? Ça a l'air plutôt inquiétant, Jimmy.
Oui, alors ces 2 pilules qui ne sont pas tellement données en termes pour la contraception, elles sont données chez des femmes qui souffrent d'endométriose ou de ménopause. Et ces pilules qu'on appelle Lutenil et Luteran ainsi que leur générique donnent des tumeurs bénignes qu'on appelle un méningiome. Le méningiome, c'est une tumeur cérébrale qui se développe au niveau des méninges. Les méninges, c'est cette membrane qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière. Et on s'est rendu compte que le risque augmente avec 2 choses. 1, l'âge de la patiente et la durée de traitement. Au bout de 6 mois de traitement, le risque de développer un méningiome est multiplié par 3,5 et après 5 ans, votre risque est multiplié par 12,5, d'où cette alerte de l'agence du médicament.
Du coup, que doivent faire les femmes pardon, qui sont traitées avec ces médicaments ?
Alors plusieurs choses. Déjà, ce traitement était contre-indiqué chez des patientes qui avaient des antécédents de méningiome, mais ce ne sont pas les seuls traitements hormonaux qui peuvent donner des méningiomes. En revanche, si jamais vous êtes traité, évidemment qu'il faut retourner voir votre médecin pour évaluer ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Est-ce que vous avez plus de bénéfices à avoir le traitement que de risques. Pour les patientes qui sont traitées et qui ont des symptômes suspects de méningiome, à savoir des maux de tête, des troubles de la vision, du langage, des vertiges, il est évident que votre médecin doit vous prescrire une IRM cérébrale. Pour les patientes qui n'auraient aucun symptôme, qui vont très bien, mais qui ont plus de 35 ans et qui ont été traitées pendant plus de 5 ans par l'un de ces 2 traitements, le Lutenil ou le Luteran, ainsi que ses génériques, eh bien le médecin peut proposer une IRM cérébrale à titre de dépistage. Et évidemment, si vous avez n'importe quelle question, posez-les à votre médecin traitant, ne faites pas de recherche sur internet par pitié.
Oui, on a le médecin traitant qu'il faut appeler, évidemment, on n'arrête pas un traitement sans avoir consulté son médecin, ça c'est quelques règles de base, et puis si vous voulez consulter tous les matins juste après 7h, il y a Jimmy Mohamed qui répond à vos questions et que l'on retrouve à partir de 15h, sans rendez-vous l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Merci Jimmy.
Et on retrouve à 7h16 Anissé Mbita sur Europe 1, l'innovation du jour.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La Formule 1, vitrine marketing et vitrine technologique. Mais parfois, ces innovations redescendent sur la voiture de monsieur tout le monde. Ça va être le cas avec des systèmes de récupération d'énergie des échappements.
Oui, c'est un système qui à la fois réduit la consommation et qui donne plus de puissance à bas régime. En clair, dès que vous accélérez, ça part tout de suite, hein, donc la conduite est beaucoup plus agréable. C'est utilisé sur les Formule 1 depuis 2014, depuis qu'on leur impose des restrictions extrêmement drastiques sur la consommation. Donc leurs moteurs sont devenus beaucoup plus petits, hein, ils sont limités à 1,6 litre. Alors 1,6 litre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, mais c'est la cylindrée d'une toute petite citadine.
Bah oui.
Et pourtant,
les petites Clio,
fois,
les petites Clio 1,6 litre.
Exactement.
Ouais,
ouais. Ça me rappelle quelque chose.
Sur la Formule 1.
Bah justement, ce petit moteur 1,6 litre, une fois qu'on l'associe à des moteurs électriques, à des systèmes de récupération d'énergie, eh bien on obtient des performances hallucinantes, une très faible consommation. Et ce sont ces technologies que Mercedes et Renault, notamment, vont transférer sur les voitures de tourisme.
Alors j'imagine que ce sera pour les sportives et les modèles haut de gamme.
Pas seulement. Hein. Alors c'est sûr, sur les grosses sportives, ça va éviter le malus écologique avec des moteurs plus petits qui consomment moins et qui restent pourtant aussi souples que les gros. Mais ça va surtout servir sur les camions, sur les bus, les cars qui ont des gros moteurs qui polluent beaucoup. Et ça devrait aussi se transformer la voiture hybride de monsieur tout le monde. Parce que pendant longtemps, elle avait deux moteurs, un tout petit électrique à basse vitesse hein, et puis de l'essence qui reprend le relais après. Mais avec les technologies de la F1, on n'aura plus qu'un moteur où l'électrique va assister l'essence en permanence pour optimiser son rendement. Et ça, ça commence à arriver sur la Clio 5 par exemple.
Voilà.
Parce que... Parce que justement, tout le monde veut réduire sa consommation, mais tout le monde ne peut pas encore passer au tout électrique. Hein. La campagne, par exemple, c'est compliqué.
Merci beaucoup, Anissé Mbida. Très belle innovation et encore une fois, la preuve de l'élite, la Formule 1, et de comment ça se répercute ensuite sur la voiture de monsieur tout le monde. Anissé Mbida, l'innovation, tous les matins.
Europe 1. La Ligue des Champions aura droit à une fin. Tout va se dérouler en quelques jours, fin août, à Lisbonne. L'édito sport de Virginie Fulpin.
Le monde bouge, Axel de Tarlé, juste avant. À tout de suite.
7h21, Mathieu Bellière sur Europe 1.
Le monde bouge, Axel de Tarlé. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Réouverture des trains de nuit à partir du premier week-end de juillet. Mais avec seulement 4 voyageurs par compartiment couchette contre 6 habituellement. Réouverture des trains de nuit. Axel, le secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, dit vouloir redynamiser les trains de nuit, c'est-à-dire ?
On va se dire les choses. Hein. La SNCF a gentiment laissé dépérir ses trains de nuit. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 lignes lourdement déficitaires. Paris-Briançon et Paris-Portbou à la frontière espagnole. Alors il est vrai que ces trains de nuit sont pris en étau entre le TGV ultra rapide et les vols low cost ultra pas cher. Donc à quoi bon passer la nuit dans un train à dormir à côté d'un passager qui ronfle ?
Ça c'est pour moi. Alors justement, je vous retourne la question Axel, pourquoi ressusciter ces trains de nuit ? Est-ce qu'on est bien sûr qu'il y aura une clientèle pour ça ?
Eh bien écoutez, ça marche chez nos voisins. En Autriche, la compagnie nationale a relancé avec succès les trains de
Mais
nuit.
Mais en Autriche, hein. Vous faites quoi sur toute une nuit ? C'est tout petit l'Autriche ?
Non, c'est Vienne. Vous allez de Vienne vers Berlin, de Vienne vers Amsterdam, de Vienne vers Bruxelles, Vienne Zurich. Non, non. La Suède également est en train de rouvrir, après 30 ans d'absence, ses trains de nuit, avec une ligne Stockholm-Berlin via Copenhague. Au passage, vous savez qui est en charge d'opérer ces nouveaux trains de nuit en Suède ? Eh bien, c'est l'opérateur français Transdev. La liaison devait commencer dès cet été, et bien sûr, à cause du Covid, mais elle sera reportée à l'année prochaine.
Pourquoi cet engouement ? Pour des raisons écologiques, Axel ? C'est la fameuse honte de voler, comme on dit déjà, Flixcam, Flixcam
oui,
en suédois.
Oui, alors il y a ça, mais pas que. Avec le train de nuit, s'il est bien fait, eh bien, on renoue avec un certain art du voyage. Vous savez, tout le monde se plaint en ce moment du tourisme de masse où l'on est parqué hein, dans des vols low cost aux couleurs criardes. Alors que le train de nuit, fermez les yeux, Mathieu. Voilà, vous voyagez loin, en train, de nuit, à travers l'Europe. Ben, voyez, c'est prendre son temps. C'est vivre une expérience. Mais non, mais le trajet n'est plus une corvée. Le trajet fait partie intégrante des vacances, du dépaysement. Donc oui, redynamisons les trains de nuit. Ça nous fera de beaux voyages et de beaux souvenirs.
Vous savez, l'important, ce n'est pas la destination, hein, c'est le voyage.
C'est l'escalier qui monte.
Écoutez, Axel de Tarlé, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'histoires, peut-être des témoignages d'auditeurs sur le hashtag Europe 1. Moi,
j'ai fait Interrail toute ma jeunesse, j'en garde d'excellents souvenirs.
Je ne vous demande pas d'anecdotes personnelles. À 7h23, les enfants écoutent encore. Bon réveil.
Et à 7h23, c'est l'édito sport. Virginie Fulpin sur Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
La Ligue des Champions va se terminer par un Final 8.
Oui,
on va dire comme
voilà,
ça, à Lisbonne, au mois d'août, des quarts de finale à la finale, des matchs simples, pas d'aller-retour. Pour vous, Virginie, cette formule inédite peut être passionnante, mais cette édition 2020 risque d'avoir moins de valeur que les autres.
Mais vous imaginez, on va avoir les 8 meilleures équipes d'Europe réunies en un lieu unique entre le 12 et le 23 août. 11 jours de foot avec des matchs à élimination directe pour sacrer le champion d'Europe 2020. Il y a presque de quoi oublier un été sans euro. Mmh. Hein. L'obsession de l'UEFA, c'était d'aller au bout de sa compétition phare, surtout pour des questions de de droit télé, on ne va pas se mentir. Il fallait bien innover et je trouve que la solution est plutôt bien trouvée. Ça se passe à Lisbonne, une ville peu touchée par la pandémie. Il y a deux grands stades pour accueillir les matchs et les équipes vont naviguer entre leur hôtel, le centre d'entraînement et le stade sans contact avec le monde extérieur. Pour le public, c'est encore flou, hein, mais on a bien compris que la priorité de l'UEFA, c'était de la jouer, cette Ligue des Champions, le reste n'étant que littérature. Le problème, c'est quelle valeur aura cette édition ? Moi, j'ai peur que l'équipe victorieuse, à la fin, subisse à peu près les mêmes railleries que les élèves qui auront obtenu le bac cette année. Hein. Ah oui ? Champion d'Europe 2020. Bah, vu les conditions, ça compte pas vraiment, c'est pas la vraie compétition. Si jamais le Paris Saint-Germain l'a gagné, cette première Ligue des Champions de son histoire...
Elle sera belle.
Ouais, ouais, mais moi j'entends d'ici les sarcasmes des supporters adverses sur une victoire tronquée, et puis les blagues sur le fait que forcément les Parisiens ne pouvaient pas subir de remontada puisqu'il n'y a pas de match retour.
Oui, pour le PSG, pour Lyon, ça va quand même être compliqué, hein, vu que les clubs français n'auront quasiment pas joué avant.
C'est vous Mathieu ? Parce que là j'avais l'impression d'entendre Jean-Michel Aulas. Évidemment, ça va être un vrai problème pour les clubs français. Pour jouer son huitième de finale retour contre la Juventus de Turin, l'OL n'aura dans les jambes qu'une finale de Coupe de la Ligue et peut-être un tournoi amical. Pour le PSG, les finales des deux coupes. Ça fait juste par rapport aux clubs qui auront tous repris leur championnat. Alors j'ai entendu le président de l'UEFA dire hier que l'arrêt du championnat de France avait été une décision prématurée. Je trouve ça fascinant, les résistants de la dernière heure. Vous savez, l'obsession pour l'UEFA, c'était la Ligue des Champions. Mais un dialogue pour essayer d'harmoniser les reprises ou les non-reprises des championnats, on n'en a jamais entendu parler. Hein. Mais c'est vrai, il va y avoir un vrai problème d'équité et c'est aussi pour ça que je pense que cette édition de la Ligue des Champions n'aura pas exactement la même valeur que les autres années. Ça va être attractif, mais ça aura plus des airs de tournoi de pré-saison que de phase finale à proprement parler, même s'il y a un trophée au bout. Autant dire qu'on risque d'avoir des surprises sur le terrain.
Quelle semaine ça va être ? Une dizaine de jours ? Quand même, hein, avec que des affiches Ligue des Champions tous les jours. Je ne sais pas, on verra au final justement quel bilan tirer. Merci beaucoup Virginie Fulpin, elles vont bien finir ces vacances. Moi je suis assez optimiste. Et vous savez, si Paris la gagne, elle sera belle. Sinon, bah, effectivement, ce sera une sous-compétition.
Mais vous savez ce que vous allez entendre. Vous le savez.
Je le sais. J'entends déjà de loin 7h26 sur Europe 1.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1.
Il est 7h29 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Ah, le mauvais temps. Il est comme nous. Au petit matin, il a du mal à se mettre en route. je suis en train de surveiller les cartes. Je dis, mais alors, il rentre pas, lui, là. Il reste sur les côtes atlantiques. Attention, hein, quand même, du côté des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, il y a quand même pas mal de pluie. Mais la pluie reste sur les côtes. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, elle va pénétrer quand même dans les terres. Et elle va gagner pratiquement toutes les côtes de la Manche, la vallée de la Loire, le Poitou-Charente, le Massif Central, le Centre. Et puis le Morvan, cet après-midi, le Massif Pyrénéen, les Alpes. La Franche-Comté. Voilà pour des régions où nous aurons à la fois averses, orages et gros nuages. Et puis des éclaircies, parfois belles, sur les Ardennes, la Lorraine-Alsace, le Dijonais, la vallée du Rhône et le bassin méditerranéen. Enfin, ceux qui habitent l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées, comme la région parisienne, auront également un brin de soleil, mais peut-être, disons, un peu plus contesté. Mais enfin, bon, il ne pleuvra pas beaucoup. En tout cas, sur Paris, ce sera en fin de journée, encore quand je dis sur Paris, cela veut dire l'Île-de-France, hein, parce que Paris est souvent préservé. C'est une bulle chaude. Les températures, justement, 18 à Trouville aujourd'hui, 19 à Bourges, 20 degrés à Belfort, 21 à Toulouse, 22 à Paris, 24 à Lyon et 25 à Marseille. L'été arrive.
Merci beaucoup. Oui, l'été, c'est dimanche. L'été, c'est dimanche, l'été arrive. Vous êtes sur Europe 1. Jérôme Lacroix est avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est 7h30.
C'est toujours une mauvaise nouvelle. On est vraiment sur des gros ratios. Nos amis suédois ne font pas plus de social que ça. Ce qui compte d'abord, c'est de préserver les ressources de l'entreprise. S'il faut sacrifier, ils sacrifieront.
Plus de 460 suppressions de postes chez Renault Trucks près de Lyon. Les syndicats fulminent. La crise sanitaire a tout chamboulé, se justifie la direction. Tous les enfants des crèches accueillis dès lundi prochain. Emmanuel Macron l'a souhaité dimanche dernier. Dans les faits, certains enfants ne retrouveront pas leur puéricultrice malgré un protocole sanitaire allégé. Et puis l'aura du général de Gaulle, toujours omniprésente à Londres, 80 ans après l'appel du 18 juin. Commémoration dans la capitale anglaise aujourd'hui. Le chef de l'État sera sur place.
Juste après ce journal, la crise ou la reprise. Note de conjoncture de l'INSEE publiée hier soir avec quelques signes d'espoir ce matin. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE dans moins de 10 minutes. 7h50, Périscope, le rendez-vous culture de la matinale. Jean-Philippe Ballas et Jean-Michel Jarre en concert virtuel pour la fête de la musique dimanche. Avant 8h, l'opinion de Nicolas Bétou, la Convention citoyenne pour le climat et l'option référendum. Il est 7h31.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
On vous raconte ces dernières semaines sur Europe 1 ces plans sociaux, licenciements dans certaines entreprises, justifiés de manière parfois pas vraiment claire par la crise économique. Certains syndicats soupçonnent une situation similaire près de Lyon. Le fabricant Renault Trucks Groupe Volvo annonce la suppression de 463 postes en France pour deux de ses sites majeurs, Vénissieux et Saint-Priest.
Départ sur la base du volontariat qui toucheront essentiellement les cadres. La direction se justifie expliquant tout faire pour une reprise rapide de l'activité après le confinement. Jean-Luc Boujon.
Cette réorganisation du groupe était attendue, mais pas aussi vite et pas aussi fort. La crise sanitaire a en fait tout chamboulé. Depuis le mois de mars, il n'y a plus de commandes de camions, donc plus de production. D'où la décision de Renault Trucks, qui appartient au suédois Volvo, de supprimer 463 postes, mais uniquement des cadres, explique Anne-Cécile Benita, responsable communication du groupe.
L'outil industriel n'est absolument pas touché par ces suppressions de postes. C'est uniquement des postes de ce qu'on appelle chez nous des white collar, c'est-à-dire des employés, des gens qui sont dans les bureaux d'études, au commercial, aux achats et quelques personnes qui sont dans l'outil industriel mais qui ne sont pas des ouvriers.
Une décision qui s'explique par l'espoir d'une reprise assez rapide de la production de camions, donc de l'activité des usines. Reste que c'est un coup très dur pour les cadres, estime Éric Fréburgère, délégué CFE-CGC.
Ah bah c'est clair que c'est toujours une mauvaise nouvelle. On est vraiment sur des gros ratios et c'est anxiogène. Nos amis suédois ne font pas plus de social que ça. Ce qui compte d'abord, c'est de préserver les ressources de l'entreprise. S'il faut sacrifier, ils sacrifieront.
Pour autant, aucun licenciement sec n'est envisagé, promet la direction. Les départs se feront tous sur la base du volontariat. Vénissieux, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Air France menace sur 8 à 10 000 postes, selon le journal Les Échos, 15 à 20% des effectifs, pas de confirmation de la direction.
Un protocole sanitaire allégé dans les écoles, fin totale de la distanciation en maternelle, on dessert aussi l'étau dans les crèches.
Un protocole temporaire permet notamment la fin du port du masque pour les puéricultrices, des crèches censées accueillir tous les enfants à partir de lundi prochain, selon les mots d'Emmanuel Macron dimanche dernier, mais dans les faits, ce ne sera très certainement pas possible. Jeanne Bergaoui l'a constaté pour Europe 1.
Les jeux qui sont portés à la bouche sont lavés systématiquement une fois par jour en temps normal. Aujourd'hui, tout est lavé deux fois par jour.
Les jouets ou les sols devront être désinfectés au minimum matin et soir. Anne-Sophie Fall sait aussi que les professionnels n'auront plus à porter le masque en présence des enfants. Mais cette coordinatrice de 11 structures parisiennes attend le protocole définitif.
Plus vite on va être au courant, plus vite on va pouvoir organiser les choses et meilleur sera l'accueil des enfants lundi.
Jusqu'ici, cette crèche associative n'accueillait que 10 enfants avec un roulement à 3 maximum pour les repas. Si tous reviennent, il va falloir repenser toute l'organisation, soulève Kelly Pellet, l'une des puéricultrices.
C'est la grande question, à savoir si pour les repas et le dortoir, il faudra garder les 1 mètre ou pas. C'est très flou.
Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'infos.
Avant le confinement, Thomas emmenait Nino chaque jour à la crèche. Mais la semaine prochaine, son fils n'ira que 2 après-midi, regrette ce jeune papa.
Moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir un peu plus de jours, mais ça n'a pas l'air d'être si simple.
Cette crèche municipale prévoit un accueil encore partiel jusque mi-juillet. Alors pour poursuivre son activité professionnelle, Thomas a dû solliciter à nouveau l'aide des grands-parents.
La sortie de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet, votée hier soir par les députés en première lecture. Le texte permet toutefois de conserver des restrictions jusqu'au 30 octobre sur les rassemblements ou l'accueil du public, par exemple dans les magasins. Examen au Sénat dès lundi.
L'appel ce matin de la Ligue contre le cancer. L'épidémie a provoqué une chute drastique des dons. La recherche et les actions auprès des personnes malades sont directement menacées.
Illustration dans les Bouches-du-Rhône. 1 million d'euros récoltés une année normale. Le budget est déjà amputé de 30%, alerte Magali Maugéry, directrice départementale de la Ligue contre le cancer.
On ne peut pas se permettre de baisser les bras. Les chercheurs ont besoin de financement parce que c'est indispensable. Il y a des pistes et elles sont là. Il y a des avancées qui sont concrètes. Mais si on ne peut plus financer les chercheurs, ça va être dramatique. Cette épidémie a fait du mal aux patients qui se seront trouvés aussi confinés avec un manque de contact qui n'était pas évident. Et puis tout le dispositif d'aide aux malades, que ce soit l'aide financière, puisque ce sont des aides d'urgence. Donc ça va être effectivement une difficulté pour payer un loyer, des problèmes alimentaires qui deviennent de plus en plus récurrents, mais aussi les espaces qui accueillent les patients avec les prestations que nous offrons gratuitement aux patients, les activités physiques, le soutien psychologique, etc. Continuer à aider et à soutenir la Ligue contre le cancer pour que nous puissions continuer effectivement à aider les personnes qui en ont besoin.
Magali Maugéry, directrice de la Ligue contre le cancer dans les Bouches-du-Rhône, au micro Europe 1 de Nathalie Chevance.
Emmanuel Macron commémore les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940 au mémorial du Mont-Valérien, puis à Londres. Ce sera sa première visite à l'étranger depuis la crise du Covid.
Londres, capitale de la France libre, rappelle l'Élysée. L'aura du général de Gaulle y est d'ailleurs toujours très présente. Certains en font même leur petit business. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Élodie Goulesque.
C'est dans son pub désert, confinement oblige, que Leslie Lewis monte les marches jusqu'au deuxième étage, là où perdure la légende de l'établissement.
Ça se serait passé ici, près de la fenêtre.
La maison française, ou The French House, c'est le pub où le général de Gaulle aurait écrit son discours la veille du 18 juin 1940.
On n'est pas sûr à 100%, mais on aime bien l'idée. Et je pense qu'il aurait probablement aimé venir ici juste pour parler français.
Mais pour les puristes comme Hubert Roth, l'histoire est ailleurs.
Et nous sommes devant la statue du général de Gaulle, ici en plein cœur de Londres.
Ce Français expatrié à Londres fait découvrir la capitale à travers Charles de Gaulle à des touristes français, mais aussi locaux.
Pour les Anglais, Charles de Gaulle, c'est l'homme qui a dit non en 1940 à Hitler, mais c'est aussi l'homme qui a dit non à l'entrée de l'Angleterre dans l'Union européenne dans les années 60.
Hubert va suivre ce 80e anniversaire avec attention et prévient Emmanuel Macron.
C'est le conseil qu'on pourrait donner au président, si tant est qu'on ait un conseil évidemment à lui donner. Il faut s'inspirer, il ne faut pas imiter.
Verdict cet après-midi à Londres, au pied de la statue de Charles de Gaulle. Londres, Élodie Goulesque, Europe 1.
Et ne manquez pas dans le journal de 8h tout à l'heure, le témoignage d'Yves Meyer, recueilli par l'Ordre d'Autriche. Il a 96 ans, il avait 16 ans. Et il a entendu l'appel du 18 juin 1940, son histoire, la résistance, bien sûr, la déportation aussi. Dans le journal de 8h tout à l'heure avec François Geffrier. Merci Jérôme Lacroix. C'était le journal de 7h30, il est 7h37.
Europe 1. La matinale d'Europe 1 avec vous Mathieu Béliard.
Et ce matin sur Europe 1, la lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre races. Petite phrase déjà polémique de Manuel Valls dans Valeurs Actuelles. L'ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, va y revenir avec Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1. Tout de suite, le déconfinement et la reprise économique. Une nouvelle note de conjoncture publiée hier par l'INSEE. Et on y retrouve quelques signes d'espoir. La reprise d'activité, la consommation aussi. Le directeur général de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier, est mon invité dans une minute.
À 7h40, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, le directeur général de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier.
Bonjour Jean-Luc Tavernier.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. L'INSEE publiait hier soir une note de conjoncture que l'on va détailler avec vous. D'autant qu'il y a quelques notes d'espoir que l'on a envie de souligner ce matin. D'abord, sur quelle base est-ce que vous partez mars, avril, mai? C'est un euphémisme, hein, on est sur des plus bas historiques.
Oui, alors ça se confirme, c'est notre sixième point de conjoncture hein, depuis qu'on a démarré ces exercices en mars. Et donc il se confirme que la chute elle a vraiment été historique. Hein. On a perdu un tiers du PIB et un tiers de la consommation au moment du confinement. On pense qu'avril, on était à 30% encore en dessous de la normale. Et puis ça se redresse, mais le point de départ était vraiment historiquement bas.
Alors, la note que vous publiez hier soir, vos estimations du PIB français, vous revoyez vos prévisions de croissance, vous projetez moins 17%, ce qui reste historique, mais vous prévoyez moins 20% auparavant. Qu'est-ce qui va mieux que prévu?
Alors, moins 17% au deuxième trimestre, après moins 5 au premier, mais c'est effectivement mieux que ce qu'on avait dit la dernière fois, qui était plutôt moins 20 sur le deuxième trimestre. Ce qui va un peu mieux, c'est qu'on a des indicateurs sur le mois d'avril qui nous arrivent, qui sont un petit peu meilleurs que ce qu'on avait prévu. Et puis, ce qui va aussi un petit peu mieux, c'est que finalement le déconfinement se passe bien du fait du reflux de l'épidémie. Du virus et que donc on a un mois de juin qui a été réévalué. On pense qu'en juin on serait plus qu'à 12% en dessous de la normale. Donc c'est un peu dans le haut des scénarios qu'on pouvait
espérer. C'est l'activité économique,
espérer.
Moins 12% pour le mois de juin.
Moins 12% pour l'activité économique.
Moins 30 quasiment en avril, moins 29, voilà. Moins 22 en mai. Donc le déconfinement semblerait marcher peut-être même un peu mieux que prévu.
On est plutôt dans l'autre fourchette des scénarios qu'on pouvait espérer, je pense.
Bon, mais il faut voir le verre à moitié plein, même si ces chiffres sont impressionnants. Oui. Il y a un autre indicateur qui attire notre attention, toujours sur ce climat de déconfinement. La consommation. Les Français se remettent à dépenser.
Alors là aussi, on était à moins 30% en avril, quelque chose comme ça, et maintenant on serait à moins 7%. Donc il y a eu un côté un peu mécanique, hein. Il y a eu tout un tas de pans de la consommation qui ont été mis sous cloche, où on n'a pas pu consommer, et donc mécaniquement ça revient. On avait l'impression qu'on était déjà dans ces eaux-là, moins 7% au moment du déconfinement, hein, tout à fait à la mi-mai. Mais on pensait qu'il y avait des phénomènes de rattrapage et que la consommation se tiendrait moins bien après. En fait, elle se tient bien. On pense qu'en juin, on sera 5% en dessous de la normale en matière de consommation, ce qui n'est pas si mal.
Cela dit, ces derniers mois sur la consommation, vous aviez souligné la hausse des prix des produits frais en particulier. Protocole sanitaire oblige, les produits frais ont connu une forte augmentation et cette augmentation se poursuit en juin.
Oui, là, alors en juin, on ne l'a pas encore. Hein, les chiffres de l'inflation, on va attendre que le mois soit terminé. Je pense que les produits frais, oui, les prix restent encore élevés, mais il y a des tas de prix qui sont par contre orientés à la baisse, notamment les prix des carburants remontent, mais ils restent très très bas.
Est-ce qu'il y a un sujet pouvoir d'achat ? Je voyais que dans le même temps, les revenus des Français, le revenu des ménages était en baisse limitée grâce aux amortisseurs mis en place par l'État. Est-ce qu'il y a un sujet pouvoir d'achat dans l'immédiat ?
Écoutez, le choc, il est historique. Le choc de PIB et donc de revenus de l'ensemble du pays, il est historique. Il a été majoritairement absorbé par l'État et par les administrations publiques, un peu par les entreprises. Et la part absorbée par les ménages, elle est finalement minoritaire. Si ça ne veut pas dire qu'il y a... en moyenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ménages qui sont dans des situations difficiles, bien entendu. Mais en moyenne, si vous regardez, on a donné des chiffres pour avril, on dit que le revenu des ménages baisserait de 2,7%. Il a baissé 10 fois moins que la consommation sur un mois comme avril.
Oui, il faut comparer ces chiffres entre... Je voudrais profiter de votre présence, Jean-Luc Tavernier, pour parler de votre travail. L'INSEE d'ordinaire, je le souligne, hein, parce que c'est une préoccupation pour les journalistes. Vous mettez évidemment beaucoup de temps pour compiler, traiter, analyser ces chiffres. Ça met parfois plusieurs mois à nous arriver. Là, en ce moment, vous travaillez en temps réel. Et je voulais que nos auditeurs entendent comment vous procédez en temps réel ce matin. Par exemple, vous scrutez les réseaux télécoms et les données de géolocalisation. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent ?
Oui, non, c'est vrai que la statistique, c'est un gros paquebot. Hein. On est un peu inerte et on ne change pas de méthode facilement. Mais là, il a vraiment fallu s'adapter et montrer qu'on était un peu manœuvrant. Il fallait qu'on le soit, hein, parce que nos outils traditionnels, c'est des enquêtes de conjoncture qui mettent un peu de temps à être collecté. Il faut d'ailleurs, j'en profite pour le dire, que les entreprises et les ménages continuent de répondre aux enquêtes, c'est très important. Mais au moment de la crise, évidemment, il fallait ce qu'on appelle, nous, des indicateurs à haute fréquence, c'est-à-dire des choses qui sont hebdomadaires, voire quotidiennes, et qu'on peut exploiter tout de suite. Alors, il y a les données d'électricité, c'est un classique, mais c'est assez difficile à interpréter parce que c'est à la fois consommé par les ménages et les entreprises. Les conjoncturistes aiment bien aussi regarder les données de transport, les données de fret ferroviaire.
Le fret ferroviaire, l'activité économique
On voit bien la corrélation entre l'activité du fret et puis l'activité de l'économie. Mais aussi, c'est vrai, du transport routier. Il y a des gens qui regardent la pollution, qui regardent des
images. La pollution atmosphérique ?
Oui, alors moi, mais je vais vous dire, moi, ce que nous, on préfère à l'INSEE, ce sur quoi on a engagé en fait des partenariats depuis plusieurs années et qu'on a rendu hein, dans la crise, parce qu'on a pu sortir des choses avec ces partenaires que je remercie, c'est d'une part les données de caisse des hyper-marchés.
Les données de caisse, le ticket de caisse ?
Les tickets de caisse, des hyper-marchés et des supermarchés. On l'utilise pour mesurer une partie de l'indice des prix depuis le mois de janvier. Et là, on l'a regardé aussi du côté vente, du côté des volumes de vente. Très important pour nous, pour regarder la consommation, on a pu avoir les données quotidiennes de transactions par carte bancaire, par carte bleue, grâce aux banques.
Et ça, vous pouvez l'avoir en direct, le compiler
sur la
journée. Et ça
s'est révélé être un indicateur très très fiable et ça couvre l'ensemble bien sûr des commerces, l'ensemble des secteurs. Et puis, il y a un troisième indicateur sur lequel on travaille aussi depuis assez longtemps, qui sont les données de téléphonie mobile. On a assez commenté, vous avez dû le faire, l'étude qu'on avait faite au moment du confinement pour regarder où les Français se confinaient, quelle proportion des Parisiens étaient partis en province,
etc. C'est sur Europe 1 d'ailleurs que Stéphane Richard annonçait que 20% des Franciliens avaient quitté la région.
Voilà, alors on a révisé un petit peu le chiffre à la baisse après, mais en travaillant avec ses équipes. Mais enfin, c'est vrai que c'était sur Europe 1 que Stéphane en avait parlé le premier. Mais là, on a dans l'étude d'hier quelque chose qui est peut-être plus intéressant d'un point de vue économique, qui est de regarder les déplacements domicile-travail à partir des données de téléphonie mobile. Et alors, c'est assez sidérant, il y a un graphique dans le point, on voit que c'est passé, c'est descendu des trois quarts au moment du confinement, ces déplacements domicile-travail le matin, et c'est revenu à 60% de la normale à la fin mai, ce qui montre bien la reprise de l'activité, et puis la substitution du travail sur site au télétravail.
Je voulais que nos auditeurs entendent un peu les coulisses de ce travail statistique, énorme travail réalisé par l'INSEE. Je vous remercie Jean-Luc Tavernier d'être venu en parler sur l'antenne d'Europe 1 ce matin pour nos auditeurs, à la fois les données de cette note de conjoncture. Je vous laisse retourner travailler parce qu'on va surveiller de très près les prochains chiffres que vous donnerez, et puis les méthodes de travail aussi. On écoute l'INSEE changer avec vous ce matin. Merci beaucoup Jean-Luc Tavernier. Il est 7h47.
Europe 1. Jean-Michel Jarre en concert virtuel pour la fête de la musique. Périscope avec Jean-Philippe Balas sur Europe 1. 7h49, Mathieu Bellière sur Europe 1.
Et c'est l'heure de retrouver Jean-Philippe Balas pour Périscope, le rendez-vous culture de la matinale. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dimanche, c'est l'été, nous disait Laurent Cabrol. Dimanche, c'est aussi la fête de la musique, forcément particulière cette année. Et ce sera l'occasion d'une première, un concert en direct, en réalité virtuelle. Et ce sera avec Jean-Michel Jarre, Jean-Philippe.
Oui, ou plus exactement avec son avatar, parce qu'il s'est fait scanner de la tête aux pieds, Jean-Michel Jarre, pour créer un personnage qui va donc évoluer dans un décor imaginaire, une sorte de dôme gigantesque, un peu façon Matrix. Ça marche avec les casques de réalité virtuelle, tous les écrans. J'ai appelé Jean-Michel Jarre en pleine répétition de ses concerts du troisième type.
L'idée de ce projet qui s'appelle Alone Together, seul ensemble, seul au pluriel, c'est en fait de faire un concert live via mon avatar. Je vais jouer en direct dans cet environnement qui est en fait une sorte de salle imaginaire, un peu à la Bercy, à l'Accor Arena, mais où il se passe énormément de choses. C'est une autre manière de s'exprimer, une autre manière de jouer dans des espaces inimaginables. J'ai eu la chance, moi, de jouer dans ma vie dans des espaces incroyables et dans des lieux incroyables. Mais là, je peux m'exprimer dans un environnement avec une scénographie qui serait proprement inimaginable à réaliser sur une scène physique. Je ferai l'analogie pour que tout le monde comprenne avec l'avènement du cinéma par rapport au théâtre. Et au départ, le cinéma était considéré comme un numéro de cirque. Et les gens de théâtre considéraient ça avec une sorte de mépris, de condescendance. C'est devenu l'art majeur qu'on connaît et ça a au contraire aidé à faire diffuser des œuvres. La réalité virtuelle, la réalité augmentée ne sont pas en compétition avec le spectacle vivant, parce que rien ne remplacera l'émotion d'être épaule contre épaule, mais en même temps, permettent de montrer qu'il y a des équipes de création, des gens qui innovent, qui créent. Ce projet est fait avec une start-up française qui s'appelle VR Room, qui est une autre alternative, une autre proposition que la technologie d'aujourd'hui nous permet.
Alors Jean-Michel Jarre, on entend bien votre enthousiasme, mais malgré tout, est-ce que l'excitation, est-ce que le trac sont les mêmes qu'avant un concert classique ?
Tout à fait, avec un trac même supplémentaire, parce qu'il y a le trac effectivement du fait d'être transmuté, si je veux dire, ou téléporté dans un univers. Je vais avoir un public devant moi, qui est un public de gens qui sont téléportés avec leurs avatars pour ceux qui sont dans l'univers virtuel, mais aussi pour tous ceux qui vont suivre le concert en direct. Donc il y a la magie du direct avec le trac que ça incombe, avec le fait aussi d'ouvrir des portes sur des territoires vierges. Ce qui va se passer ce soir-là, le jour de la fête de la musique, est une première absolue.
Rendez-vous donc dimanche en direct à 21h15 sur YouTube et sur le site de Jean-Michel Jarre. C'est avec le ministère de la Culture et c'était Periscope. Merci Jean-Philippe Ballas.
7h52, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Votre journal L'Opinion révèle ce matin un projet de référendum qui devrait porter sur l'écologie.
C'est ce week-end que tout va se jouer. La Convention citoyenne pour le climat s'enferme en effet pendant 3 jours pour arrêter la liste des mesures, plusieurs dizaines, que ses membres proposeront au gouvernement d'adopter pour sauver la planète.
La Convention citoyenne pour le climat, c'est un groupe de 150 Français tirés au sort.
Oui, sur une liste établie, un peu comme pour un sondage, selon la méthode des quotas, et qui est censée représenter la diversité des Français. Elle s'est réunie, cette convention, une demi-douzaine de fois, les week-ends, depuis un an, et a débattu des heures durant sur le monde d'après. C'est Emmanuel Macron qui avait eu cette idée, une sorte de grand débat permanent, mais dans lequel ce n'était pas lui ni aucun politique qui tenait le manche. Un pur exercice de démocratie directe, donc très en phase avec une revendication des Gilets jaunes, des vrais gens qui, en direct, proposent une politique.
Qui propose une politique, ok, mais est-ce qu'ils seront suivis, Nicolas ? Je veux dire, on en connaît des rapports qui ont fini dans des tiroirs, sur des étagères.
C'est le point clé, en effet, et là-dessus, Emmanuel Macron a pris un engagement a priori assez insensé, celui de reprendre leurs propositions sans filtre. On verra bien ce qu'il en sortira, hein, mais les débats publics ont déjà montré qu'il y aurait à la fois du yaka faucon, par exemple, reconfigurer la diplomatie dans un esprit de justice sociale.
Oui, bon, vous avez 4 heures.
Une part de grands principes, dont certains débordants de bienveillance, et puis quelques mesures, parfois carrément provocatrices, imposer les 110 km/h sur les autoroutes, interdire tous les pesticides, réduire les cheptels de bovins, rien de mieux pour attiser les colères.
Et comment s'insère le référendum dans ce dispositif ?
Alors c'est une piste que Emmanuel Macron lui-même a évoquée à plusieurs reprises. Politiquement, ce serait un coup habile. Hein. Le chef de l'État gagnerait ses galons écolos et il donnerait aussi un gage de rénovation, de revitalisation de la vie démocratique française avec des propositions du peuple adoptées par le peuple.
Oui, mais sauf qu'on sait qu'un référendum, c'est toujours dangereux pour le pouvoir en place.
D'où l'idée de poser plusieurs questions, plusieurs référendums en un seul, une manière de rendre les réponses illisibles politiquement, hein, une somme de oui et de non impossible à interpréter. En fait, le vrai problème, il sera ailleurs. Comment soumettre sans filtre aux Français des propositions qui n'auront pas été filtrées, justement, qui pourront antagoniser les Français, en faire payer certains pour la conversion écolo des autres. On le sait depuis les Gilets jaunes, pour réussir une transition verte, il faut dédommager ceux qui perdent au change. Et ça, un référendum ne peut pas le régler. C'est donc une petite bombe qu'Emmanuel Macron pourrait bien avoir armée.
Simplement, est-ce qu'on sait à quelle date pourrait avoir lieu ce multi-référendum ?
Alors, si le projet va jusqu'au bout, le calendrier électoral est très encombré, mais il y a une fenêtre à l'automne.
Et c'est à lire dans l'Opinion aujourd'hui. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant le journal de 8h.
Europe 1. Le journal de 8h avec François Geffry et la météo. Laurent Cabral juste avant.
Laurent Cabral est avec nous à 7h59. C'est l'heure de la météo.
Et c'est l'heure de... un petit rappel quand même, parce qu'on a...
Oui, j'ai dit une bêtise, je vous voyais venir.
Voilà, c'est pas samedi, l'été. C'est pas dimanche, c'est samedi l'été. Hein. Ben vous êtes trompé à 6 minutes, hein, parce que le solstice, il est à 23h43. Vous voyez.
Oui, mais j'arrondis, c'est pour ça. Allez-y Laurent.
Ça m'étonne pas. Bon, alors donc, pour aujourd'hui, ben, c'est un temps souvent nuageux, avec des averses, des orages, des gros nuages sur une bonne partie ouest de la France. Les éclaircies les plus simples d'y aller tout de suite, Lorraine, Alsace, Dijonais, Vallée du Rhône, littoral méditerranéen, de belles éclaircies. Éclaircies plus timides sur le Midi-Pyrénées, sur l'Île-de-France, où il pourrait y avoir trois gouttes ce soir. Voilà pour la journée d'aujourd'hui, un peu comme hier, hein, vous l'avez compris, 19 à 25 degrés côté température. Demain, vendredi, ce sera un petit peu mieux. Samedi, le jour de l'été, ce ne sera pas quand même limpide, hein, loin s'en faut, je le dis bien, le temps ne sera pas limpide, il y aura encore pas mal de nuages. La véritable augmentation des températures, c'est à partir de lundi seulement. Allez.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.